MIPIM 2021, Time to Reconnect. Le premier événement permettant à la communauté internationale de l'immobilier et aux investisseurs de se retrouver et d'échanger à nouveau. Les 7 et 8 septembre 2021, en direct du Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec TK Elevator et Alila sur Radio Imo.
Vous avez fait une petite annonce là sur la scène, un nouveau mécanisme d'externalité positive. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne ?
Grosso modo, c'est aujourd'hui, la difficulté c'est que des projets sont difficilement acceptés par les riverains et que ça crée des difficultés politiques. Parce qu'on a du mal à leur donner du sens, à leur donner, j'allais dire, une vocation sociale. Et les gens... de façon un peu stressée, on va dire, ont des réflexes de rejet. Je veux pas de logement, je veux des espaces verts, etc. Et tout ça, par ailleurs, compréhensible. Mais si tout le monde raisonne comme ça, on arrête de construire. Et puis, y a, le mal-logement va exploser, l'entre-soi, les désordres sociaux. Et donc, il faut bien comprendre que si on ne raisonne que par intérêt particulier, ça ne marche pas. Et donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est trouver les mécanismes dans le PLU bioclimatique qui permettent de mieux valoriser ceux qui font des efforts, par rapport à ceux qui n'en font pas ou qui ne peuvent pas en faire. Il y a aussi des projets qui sont plus difficiles à mettre en œuvre. Par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas assez d'incitations pour la valorisation des matériaux géosourcés, biosourcés. C'est vertueux sur le plan environnemental de le faire. Il faut que ce soit mieux valorisé. Parce que si on se retrouve dans des schémas où c'est que de la valorisation symbolique de l'engagement citoyen, la rentabilité financière finit par imposer son implacable logique. Et donc, on a besoin... j'allais dire, d'intégrer dans le coût économique des projets les externalités négatives que ça génère sur l'environnement. Pour ça, il y a deux moyens. Il y a des moyens un peu habituels que je trouve un tout petit peu usés sur la fiscalité environnementale, etc. Et puis, il y a des décisions, par exemple, d'obligation qui ne relèvent pas du pouvoir communal, mais du législateur. C'est de dire, on met fin à tel type de matériaux, telle condition de construction, etc. Et puis, il y a ce qui est à notre main, c'est-à-dire des mécanismes de compensation. Alors, les professionnels sont habitués, il en existe déjà dans les PLU, il existe notamment dans le PLU de la ville de Paris en matière de compensation de pleine terre, de compensation de logement. On va essayer d'inventer, nous travaillons à l'invention d'un système beaucoup plus fluide, beaucoup plus innovant, avec deux choses. Un, on sait que ça va faire peser entre guillemets un coût économique sur les opérateurs de plus, notamment ceux qui ne sont pas très vertueux sur le plan environnemental, mais en contrepartie on va mettre beaucoup de fluidité et donc ils y gagneront aussi en temps. Et puis ça permettra d'inciter à l'utilisation de méthodes, de matériaux plus vertueux pour l'environnement. Aujourd'hui, quand un acteur fait un jardin public et qu'il accepte de l'ouvrir, un opérateur privé, c'est pas valorisé sur le plan économique. Et donc, or c'est dommage, parce que l'intérêt général est majeur. Il ne le fait parfois que pour faciliter l'acceptabilité. Donc nous, on veut créer cette ingénierie de la valorisation, de la compensation, de façon beaucoup plus efficace et beaucoup plus explicite.
En résumé, vous ne voulez pas contraindre, vous voulez plutôt inciter, encourager.
Alors oui, c'est un peu contraindre aussi, parce que le principe de la valorisation, c'est qu'on créera des mécanismes de valorisation automatiques. Et donc, il y a une forme de contrainte et on l'assume. Et on l'assume parce qu'on n'a pas le choix. Il faut qu'on s'engage sur un chemin plus vertueux sur le plan environnemental, en matière immobilière, que ce soit d'ailleurs sur de l'innovation environnementale ou de l'innovation sociale. On aura l'occasion de présenter, j'allais dire, l'esprit de ce dispositif dans les semaines qui viennent. Mais je crois que les professionnels, ils sont prêts. Et d'ailleurs, c'est les premiers à dire, moi, je veux bien, j'ai développé une filière construction bois, circuit court, valorisation de la pierre, etc. Mais enfin, ça dégrade les bilans d'opération. Personne ne vient payer le surcoût, ou en tout cas de façon très réductrice par rapport au coût. Et donc, je crois que les professionnels, ils sont prêts.
Vous avez dressé un portrait d'un Paris un peu du futur, avec les portes de Paris complètement changées, un périphérique repensé. Allez-y, brossez-nous cette peinture du Paris que vous imaginez à l'avenir.
Écoutez, le Paris de demain, il est dessiné par un projet de transformation qui est porté par Anne Hidalgo, qui est très ambitieux, et donc comme tout projet très ambitieux, très courageux, il crée des frictions, parfois des incompréhensions, d'où notre volonté de faire de la pédagogie et de l'explication. Nous devons changer le mode de fonctionnement des villes, sinon elles vont s'effondrer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des villes attractives ne le seront plus parce qu'elles ne seront plus vivables, elles ne seront plus agréables. Et donc, la question de l'articulation, de l'attractivité, de la qualité de vie est fondamentale. Et donc, nous avons des très grands projets de transformation. On en connaît, mais je vais en citer quelques-uns que vous avez réévoqués. La transformation des portes en place est fondamentale parce que ça redonne de la cohérence urbaine à un endroit où il y a une fracture symbolique avec le périphérique qui, à bien des égards, est dépassé. Et puis, parce que le périphérique est aussi un espace de l'urbanisme de demain. Le périphérique deviendra, c'est une certitude, un jour un boulevard urbain.
Et là où ce ne sera plus une frontière entre la capitale et la banlieue.
Ce ne sera plus une frontière. De la même façon qu'à l'origine, la barrière des fermiers... Je prends toujours la comparaison, je prends la barrière des fermiers généraux qui définissait le Paris d'avant 1860. C'était même une enceinte physique, c'est-à-dire qu'on y payait un octroi. Ce qui était à l'époque des portes, la place d'Enfer-Rochereau, Stalingrad, la place de la Nation... Eh bien aujourd'hui, ce sont des places et les Parisiens ont évidemment oublié. Ben demain, ce sera pareil, de la Porte de la Chapelle qui deviendra, on ne sait pas comment on l'appellera, mais qui deviendront des places, la Montreuil. On a des projets magnifiques sur la Porte Maillot, sur la Porte de la Chapelle, sur la Porte de Vincennes, sur la Porte de Montreuil, sur la Porte de Bagnolet, et sur tous ces grands, avec la ZAC Bercy-Charenton, l'échangeur de Bercy. Il faut se projeter sur un Paris, évidemment, ça prendra très longtemps, hein, parce qu'il faut être patient, mais c'est un horizon entre 20 et 50 ans en fonction de la complexité technique à traiter. Mais voilà, c'est très enthousiasmant de se dire que Paris, en fait, c'est le Grand Paris. Voilà. Et du monde entier, tout c'est ça, c'est Paris. Exactement.
Autre question, c'est un peu une question de mobilité. On l'a vu avec le Covid, qu'on a un peu réfléchi notre rapport au transport, en tout cas dans la capitale et la petite couronne. Il y a eu une première décision qui a fait quand même pas mal de bruit, hein, le passage à 30 km/h dans les principaux... la majorité des rues à Paris, mais de l'autre côté, Air Paris fait montrer que ça a causé plus de pollution. Comment réfléchir mobilité?
Alors, d'abord, et pollution. Pardon, c'est pas vrai, hein, excusez-moi, c'est pas vrai. Il faut faire vraiment attention, j'ai vu la façon, la presse s'est corrigée après, mais c'est les tartes à la crème, c'est le café du commerce. Moi, je veux bien qu'on fasse des politiques publiques en buvant du café, mais c'est faux, c'est faux. On confond deux choses avec une étude qui est complètement sortie de son contexte, qui dit qu'à 50 km/h, on pollue moins qu'à 30 km/h, ce qui est factuellement exact, mais même ils disent qu'à 70 et 80, on pollue moins à 50, donc à ce moment-là, roulons à 80 en ville, et qui confondent deux concepts scientifiques qui doivent être enseignés en quatrième, je pense, c'est la vitesse moyenne et la vitesse instantanée. En réalité, quand vous conduisez à 50 en ville, vous passez forcément par 30 avec des phénomènes d'accélération et de décélération, et moi, je peux sortir plein d'études qui, au contraire, montrent qu'à 30 km/h, c'est le cas notamment du Grand Londres, le passage à 30 km/h a réduit la pollution. Pas de façon très significative, parce que de toute façon, la voiture, ça pollue, et à 30, à 50, ça pollue beaucoup, donc les gains sont assez faibles. Mais en réalité, ce n'est pas que sur le sujet de la pollution qu'on travaille, c'est aussi le sujet de la tranquillité publique, de la sécurité routière, de la pollution sonore, et de ces mécanismes qu'on connaît bien en ville, et j'ai été automobiliste très longtemps, et tous ceux qui nous écouteront le savent, où quand ça passe au vert, vous accélérez et immanquablement, vous devez freiner quand vous arrivez au feu rouge suivant ou derrière la voiture qui est devant vous. Donc, c'est une circulation plus apaisée. D'abord, il faudra faire un retour d'expérience. Comme d'habitude, le procès hallucinant qu'on fait à Paris, aucune des autres villes, des dizaines d'autres villes qui l'ont fait en France de toutes couleurs politiques.
On dit que Paris fait la guerre aux voitures.
Voilà, on dit, mais enfin on l'oublie, des dizaines de villes qui l'ont fait ailleurs en France ou ailleurs dans le monde. Alors comme disait Cyrano de Bergerac, on n'abdique pas l'honneur d'être une cible. Mais enfin, j'observe qu'il y a une espèce d'obsession, mais c'est aussi l'avantage de la taille, c'est que quand on le fait à Paris, ça se voit plus, ça nous donne à la fois beaucoup d'avantages et beaucoup de responsabilités.
Et alors donc, sur les mobilités, comment on pourrait réfléchir les mobilités de demain dans Paris et la Petite Couronne pour que, justement, on puisse être plus propre dans nos déplacements ?
Voilà, il y a deux sujets. Il y a celui du développement des infrastructures de transport. Et à ce titre, le Grand Paris connaîtra une révolution avec la mise en place du Grand Paris Express à partir de 2024 et jusqu'à 2030 et au-delà. Ça va vraiment être une révolution parce que, notamment, ça va révolutionner les trajets de banlieue à banlieue. Là où, structurellement, notre agglomération souffrait d'un hypercentralisme qui fait, on connaît tout ça, que pour aller parfois de banlieue à banlieue, il fallait passer par Châtelet, ce qui est absurde. Et deuxièmement, le sujet de la mutualisation et de l'utilisation de véhicules propres. Le véhicule propre ne suffit pas parce qu'il résout en partie, évidemment, les pollutions de moteurs thermiques. Il ne résout pas les pollutions de friction dont on comprend qu'elles sont en fait très importantes, notamment le frottement des roues. Et puis, il ne résout pas l'encombrement. Et l'encombrement, c'est évidemment du temps perdu, etc. Et donc, il faut travailler à la fois sur la mutation du parc vers des motorisations décarbonées, et puis il faut travailler surtout à la mutualisation. Et là, j'insiste sur un outil qui est tout à fait exceptionnel pour ça, et qui n'était pas à portée de main il y a encore 20-30 ans, c'est les outils numériques. Grâce aux outils numériques, on est au début de ce potentiel de mutualisation qui est triplement vertueux. Il est vertueux sur le plan environnemental parce qu'on va mutualiser les choses. Il est vertueux sur le plan économique, parce que, et notamment en matière de pouvoir d'achat, parce que l'usage coûte moins cher que la propriété. Et troisièmement, il est vertueux sur le plan aussi sociétal, parce qu'on se dit qu'être tout seul dans sa voiture, c'est très sympa et je l'ai fait souvent. Mais parfois aussi, créer des zones de rencontre dans ces transports partagés est intéressant sur le plan social.
Merci Emmanuel Grégoire. Merci.
MIPIM 2021, Time to Reconnect, les 7 et 8 septembre 2021, en direct du Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec TK Elevator et Alila sur Radio Immo.